Bienvenue sur Atypique, le podcast où nous explorons les parcours uniques de celles et ceux qui ont bravé les tempêtes pour devenir accompagnants. Des reconversions audacieuses aux défis surmontés, Atypique fait pour inspirer, apprendre et évoluer ensemble. Dans cet épisode 5 d'Atypique, j'ai eu le plaisir d'accueillir Myriam, une personne remarquable avec un chemin d'évolution et une résilience incroyable. Formatrice et thérapeute spécialisée en transgénérationnel et constellations familiales, Myriam a partagé ses expériences de dépassement de l'adversité, y compris la survie à la violence domestique et à la reconquête de son identité. Elle nous offre des perspectives sur la guérison des traumatismes ancestraux et la recherche d'une solution. Nous abordons l'importance du sacré et de maintenir le caractère sacré des pratiques spirituelles tout en naviguant dans le business souvent malsain de cette industrie. Le parcours de Myriam est une source d'inspiration qui nous rappelle le pouvoir de transformation de la connaissance de soi et de l'importance d'honorer nos chemins uniques. Découvrez le parcours atypique de Myriam à l'intersection de la spiritualité, du développement personnel et de la poursuite de l'intégrité et de l'authenticité. Salut Myriam, ça me fait plaisir de t'avoir.
Bonjour,
on s'est pas
Laurent.
Vu, même si on parle de temps en temps.
On s'est vu une fois un déménagement intérieur à Aix.
Oui, je me souviens bien. Tu te présentes vite fait, ça, d'où tu es, d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais, où tu vas, que les gens sachent un petit peu plus sur toi.
Je vais redire bonjour, je m'appelle Myriam, j'ai 54 ans, j'aimerais bien réussir ma vie, être aimée, avoir du talent.
T'aurais pu chanter.
Oui, c'est ça, et que les gens me trouvent intelligente. Mais en fait, je crois que j'aime beaucoup rebondir avec les chansons. Tu sais, quand il y a des moments où on parle de l'intimité et que ça touche à tout ce qui est tout tendre à l'intérieur de moi, j'ai plutôt tendance à rebondir avec des rires et des allusions à des chansons. Donc, j'ai 55 ans aujourd'hui. Et je vais sur mes 56. Je suis native du mois d'octobre. J'ai vécu deux vies. Une première dont je t'ai parlé rapidement. Et une seconde à partir de l'âge de 30 ans. Dans ma première vie, j'ai été passionnée dès l'âge de 14 ans parce que j'étais vraiment dans un milieu chaotique. J'ai été intéressée par la culture et la découverte de l'autre. J'ai découvert l'analyse transactionnelle quand j'avais 14 ans. Parce que ma mère avait des copines complètement barrées. Il y en a qui venaient de Katmandou, mais il y en a aussi qui venaient des USA, qui avaient fait Palo Alto. Il y avait un monde incroyable tout autour de moi dans mon éducation. Et je suis tombée sur des livres permettant de comprendre les dysfonctionnements chez les personnes. Le parent, l'enfant, l'adulte. Tu dois connaître ça au niveau de l'analyse transactionnelle. C'est quelque chose qui m'a permis de survivre pendant des années parce que j'ai vraiment vécu dans un milieu hostile où j'ai très vite appris les états dissociés. Et c'est en fait dans ces états que j'ai pu observer, analyser les gens et comprendre que les choses n'étaient pas en apparence. Voilà. On va dire que la fin de ma première vie s'est retrouvée dans une histoire de violence conjugale parce que j'étais allée au bout de ce que je pouvais encaisser en tant que femme. Et mon ex m'a séquestrée, a kidnappé les enfants, a voulu les tuer. Et j'ai, décidé que j'étais morte ce jour-là pour devenir quelqu'un d'autre. À partir de ce moment-là, j'ai décidé de me tourner vers moi-même plutôt que vers l'autre pour toujours vouloir le sauver. Et j'ai décidé de me sauver moi. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui j'ai un incroyable talent. Pardon. Un incroyable talent qui me permet d'analyser très très rapidement les comportements dysfonctionnels chez l'autre. Et on va dire que ce talent ou ce petit plus que j'ai m'a permis de décrypter les systémies familiales et de les comprendre et d'en comprendre les enjeux. Pendant des années, on pourrait dire que ça fait presque 30 ans ou un peu plus que j'accompagne les personnes, mais officiellement, ça fait 25 ans. Ouais. Officiellement. Un jour, j'ai une personne qui m'a dit « Mais tu fais de l'hypnose, toi ?» Bon, arrête. L'hypnose, pour moi, c'est le cirque, c'est la fascination, c'est une forme de violence. L'hypnose telle que je la voyais, tu sais, celle qui te fait des ruptures de pattern, celle qui te met dans un état où, plouf, tu fais la poule ou des choses comme ça. C'était d'une violence très, très forte et j'ai refusé de faire de l'hypnose alors qu'il y a différentes formes d'hypnose. Tu peux faire de l'hypnose rien qu'en parlant avec les gens.
Oui, c'est sûr. C'est un truc qui me parle pas trop non plus. C'est pareil, je trouve ça trop violent. Je m'étais très à l'aise avec ça non plus. Bon, on va dire, t'as posé l'ambiance. Podcast, c'est intéressant. On voit que tu fais de ton histoire de vie, de tes souffrances, un levier.
Ouais.
T'as développé des compétences autour de ça. Donc, tu bosses beaucoup en transgénérationnel.
On peut dire que c'est ma spécialité.
Constellation familiale aussi, tu fais de mémoire?
Oui, c'est ça.
Oui.
C'est ça. C'est ça parce que pour pouvoir faire le deuil de ma famille, il a fallu que je me lance à la conquête de cette famille, la comprendre, savoir pourquoi, par exemple, mes sœurs m'ont vendue à mon ex alors qu'elles savaient qu'ils étaient violents et que quand je leur ai demandé d'appeler la police, elles ont fui et j'ai été tellement seule que j'ai voulu vivre toujours parmi ma famille, mais en la comprenant. On ne peut pas en vouloir à des personnes pour des comportements qu'ils ont, qui sont chaotiques dans leur propre système, mais on ne peut pas leur en vouloir parce que quelque part, on a des croyances, on a une éducation, on a des rôles, on est dans un système. Et pour pouvoir vivre dans un système, il faut le comprendre.
Oui. Et quand tu dis j'ai fait le deuil de ma famille, je pense que c'est un sujet intéressant, le deuil en général. Qu'est-ce que tu entends, toi, par là?
Le deuil de ma famille idéale. La famille qui ne blesserait plus, la famille qui m'accepterait avec mes petites fantaisies. Tu sais, les fantaisies intérieures, c'est quand tu vis tellement fort ce phénomène de dissociation, à un moment, tu vis entre ici et une réalité. Comment expliquer? Si j'avais écouté la médecine, j'aurais pu croire que j'étais schizophrène parce que j'étais jamais vraiment associée à moi, parce que j'entendais des voix, parce que je voyais des gens. C'est le petit, ils sont partout. Et ça, ils étaient partout aux enterrements, je foutais les jetons à tout le monde. J'avais 2 ans, je parlais aux gens. J'ai toujours vécu ça. Et ça faisait peur à tout le monde. Et ma mère m'avait fait jurer de surtout jamais en parler parce que pour elle, c'était une malédiction dans la famille de voir les choses que les gens ne pouvaient pas voir.
Oui. Quand tu dis voir les choses que les gens ne peuvent pas voir, ça veut dire quoi précisément? Les
T'as déjà
entités,
vu
les trucs
le
comme ça.
film de Bruce Willis, Le Sixième Sens?
Oui.
C'est ça. J'étais.
Pour ceux qui ne l'ont pas
J'étais.
vu, vous venez de vous faire spoiler en 3 secondes.
Merci Bruce, je suis le petit garçon et tu es le docteur. Non, c'est une blague. Bon, en fait, j'ai toujours vécu dans un univers qui était le mien. Un univers qui était le mien parce que, bon, on avait dit avec des pincettes, mais mon système masculin était dysfonctionnel total. Et que j'ai pas été vraiment accueillie dans la vie avec des câlins, des gâtés et de la douceur. Donc j'étais toute petite et j'avais pas vraiment envie de vivre. Et comme j'avais pas envie de vivre, ben j'étais plus souvent avec les morts, avec les transparents ou les enroulés ou les absents, comme on dit,
C'est pas un
qu'avec les
truc qui t'a
vivants.
fait peur, ça?
Ça faisait peur aux autres. Moi, ça ne me faisait pas du tout peur. Jusqu'à l'âge de 6 ans, je n'ai pas parlé. Et ma mère m'a amenée dans un CMP. Il pensait que j'étais autiste. Mais j'étais confort, moi, avec mon monde à moi.
Comment t'as fait pour assumer ça publiquement, comme là par exemple, t'en parles, c'est pas évident pour tout le monde, ça.
Je fais mon coming out, mon coming out spirituel. Comment j'ai fait pour vivre avec je me suis cachée pendant des années, tout en développant ce qu'on pourrait appeler cette intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, on ne parle pas assez de l'intelligence émotionnelle. On parle de gérer les émotions, mais on ne parle pas de cette intelligence émotionnelle qui est d'intégrer au niveau des émotions les leçons que ces émotions peuvent nous apprendre. Et donc, j'ai développé cette intelligence émotionnelle de me dire, ben, ça, quand je vis ça, il y a cette colère, elle est à l'autre, elle est à moi, on fait un pot commun, mais cette colère qui est surmultipliée, elle ne m'appartient pas, j'ai ma propre colère. C'était vraiment un électron libre.
Après, il y a pas mal de gens qui parlent de l'intelligence émotionnelle. Moi, je fais ça beaucoup, ce que j'appelle les connaissances de soi, l'évolution personnelle. Mais c'est moins vendeur que changer vite, transformer, aller vite, quoi. Tu vois.
Apprenez à contrôler vos émotions. Ouf, elle m'a fait mal, celle-là.
Donc, c'est en train de bouger doucement, mais c'est... Je reviens à ma question, c'est... parce que... Aujourd'hui, moi, je lutte beaucoup contre la néo-spiritualité, les faux médiums, les faux gourous, etc. Comment tu te places par rapport à ça? Comment tu vois les choses
Alors, c'est tellement sacré pour moi que je serais incapable de vendre une formation spirituelle. C'est tellement, quelque part, le plus profond de moi que je ne voudrais pas donner à l'autre une influence sur ses croyances, sur oui. ce qui le fait résonner dans son spirituel. Il y a une forme de pouvoir quand tu donnes des choses, quand tu révèles des choses. Et pendant des années, dans le début de mes années, comment je me suis fait connaître dans le milieu tu veux que je te fasse rire? Oh, je te propose un truc. Hein. Tu veux que je te fasse rire?
Ouais, je sais pas, je me méfie toujours quand on me dit ça.
On va voir si tu ris. Bah, j'ai réussi. Lol. Bon, il y a des années, donc, quand j'ai commencé ma seconde vie, je me suis retrouvée à la maison un jour et puis j'avais la flemme de passer l'aspirateur. Pour moi, c'était le truc le plus rébarbatif qui soit. Donc, j'ai tapé « flemme de passer l'aspirateur » sur Internet. Que faire? Et je suis tombée sur un article de Feng Shui. Et cet article, c'était un peu barré, mais il disait, par exemple, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Et il parlait des zones est, sud, ouest, tout. Et quand mon mari est rentré à midi, il m'a fait « ma chérie, j'ai pensé à toi toute la journée. Laisse-moi faire, je vais m'occuper de tout dans la maison. » Il a fait le ménage, il a fait tout, et il a fait à manger. Et je me suis dit, mais c'est dingue ce truc. Donc, je me suis formée dans le feng shui. Et dans le feng shui, comment arrive-t-on au transgénérationnel? C'est ça hein, que tu vas me poser comme question, la cause à effet. Mmh. Dans le feng shui, à chaque fois que j'allais faire des expertises, je tombais sur des maisons hanté. Ma spécialité, c'était devenu les big boss, les bad boys et les trucs qui font flipper tout le monde. Et c'était vraiment le truc sur lequel j'étais connue. On m'appelait pour faire des exorcismes dans les maisons. Par exemple, une femme qui avait une entité qui avait jeté son mari dans les escaliers, qui réveillait tout le monde, il y avait des odeurs de poubelle, c'était insupportable. Et moi, j'allais faire des clarifications et j'allais me connecter à ces maisons et j'allais me connecter aux entités qui étaient dans ces maisons. C'est une forme de spiritualité.
Oui, oui, clairement.
Et j'amenais les personnes à se connecter à l'entité pour comprendre pourquoi elle était devenue mauvaise. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé à m'intéresser au transgénérationnel parce que Je tombais sur des malédictions, je tombais sur des trucs bien, bien pourris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal avec la spiritualité telle que je la vois. Parce qu'elle n'est pas dans les... Elle n'est pas dans les normes. Alors, il y a la psychiatrie qui se bat, mais sans intégrer forcément les différentes énergies qui sont en jeu. Il y a Renaud Évrard qui, lui, est un type fabuleux, qui est un chercheur là-dedans et qui a plein de potes, qui intègre, par exemple, aujourd'hui, les murmureurs de voix. Les murmureurs de voix, c'est ceux qui entendent des entités ou autres. Et aujourd'hui, ça commence à être reconnu. Mais ceux qui voient, ça n'est pas forcément reconnu. Et on est dans un courant où tu as des scripts spirituels, tu as des hérésies, et les personnes se lancent là-dedans sans avoir fait un travail sur elles ou sans avoir fait quoi que ce soit, parce que c'est business.
C'est un gros business. Il y a quand même beaucoup de gourous, de gens malhonnêtes. Et comment tu fais pour gérer... Il y a des gens qui ont des ressentis comme toi, etc. Mais c'est pas toujours évident quand tu marches dans la rue, tu vois des gens, tu rencontres quelqu'un. D'après, je me dis, est-ce que tu vois des trucs à un moment donné, il faut apprendre à se taire, j'imagine. Comment tu gères ça?
C'est parce que je me tais depuis des années qu'on me pose pas de questions. Il n'y a que dans les repas de famille où parfois je mets de l'ambiance. Ou dans les enterrements, mais pas de vie de jeune fille, tu sais, ou de vie de garçon, non, dans les enterrements aussi. J'accompagne pas mal de personnes après leur mort, notamment des suicidés, puisque mon fils est suicidé, et que je l'ai vachement aidé à passer de l'autre côté, mais à passer dans le bon côté, pas le côté où il ne se pardonnerait pas et puis il continuerait à souffrir. Alors,
c'est un peu.
Je m'attendais pas à ce qu'on parle là-bas, dans ce sujet.
Pas moi non plus, mais c'est un peu l'intérêt du podcast, c'est de créer un truc assez suffisamment intime pour que on puisse parler de ce qui est important, de ce qui compte. Puis après, chacun se fait son opinion. Moi, sur ce sujet-là de la spiritualité, moi, je suis assez, j'ai une spiritualité qui est assez développée. J'en parle peu, j'en parle à gauche, à droite, un truc, mais. Parce que justement, je trouve qu'il y a un souci sur 1000 personnes qui se disent médium, il y en a peut-être une, allez, peut-être deux, qui ont, à mon sens, un vrai ressenti. Et c'est souvent des gens qu'on ne voit pas. Toi, typiquement, tu n'es pas un truc que tu écris sur tous les toits, tu ne fais pas des vidéos YouTube, tu ne marches pas dans la rue à faire ta médium, etc. Parce que, et en général, pour moi, ça fait partie des critères de gens qu'on peut commencer à écouter, qui ont cette spiritualité assez incarnée. Et c'est souvent des gens qu'on douillait pas mal dans leur histoire de vie, parce que je pense qu'on ne s'ouvre pas spirituellement tant qu'on n'a pas pris cher dans l'humain, tu vois. Enfin, ça, c'est ma vision du monde, mais peu importe. Et d'où ma première question qui était là, c'est que comment tu fais ta place quand tu vois tout ce qui peut exister qui tourne presque en ridicule ces ressentis, cette spiritualité-là, etc. Bah, j'ai un chien qui va me faire tomber un truc.
Oui, j'allais te dire, c'est toutou. Non, mais c'est pas ma médiumnité, c'était le petit poste que tu as fait, je dois être honnête.
Je peux parler de terrain.
Attention, Laurent, derrière toi, tourne-toi. Non, c'est une blague.
Et donc.
Comment En fait, je fais ma place en m'intégrant et en m'acceptant comme je suis et en arrêtant d'attendre de l'autre qu'il veuille m'accepter.
Et oui, parce que tu as fait un post il n'y a pas longtemps sur Facebook. Je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé ce podcast, mais bon, il n'y a pas longtemps, c'était quelques semaines, hein, au moment où on parle, là, sur justement la visibilité, se faire connaître, les difficultés qu'on peut avoir à faire ça, où je me suis un peu exactement de faire des formations, etc. Comment tu fais justement cette part des choses? Ce n'est pas toujours évident, surtout quand on a un angle et une approche, une philosophie ou une spécialité qui est atypique ou qui peut justement être perçue comme un truc de gourou, de gens pas bien dans leur tête, enfin tous les clichés qu'il peut y avoir et qui sont pas que des clichés parce qu'il y en a beaucoup aussi dans ce milieu du business, etc., où les gens peuvent exploiter plus facilement la souffrance des gens avec de l'impalpable. Je pense que c'est un vrai problème qui fait du mal aux gens qui font ça avec le cœur et tout. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais
Alors,
comment tu
comment
fais ta
j'ai.
place, quelles difficultés tu rencontres, comment tu les as traversées, comment tu évolues avec ça?
Alors, comment j'existe? J'existe surtout en ne parlant jamais de ça. Pourquoi? Parce que si je dois donner confiance au niveau des personnes en ce qu'elles sont quand elles accompagnent l'autre, ça n'est pas une Myriam qu'elles ont besoin de copier-coller. C'est la personne qu'elle est, qu'elle a besoin de trouver, de découvrir avec ses propres ressources. Moi, je ne veux pas qu'on fasse un copier-coller ou une imitation de ce que je suis. Je veux amener à mes élèves leur propre ressenti, leur propre connexion à eux, leur propre waouh, mais c'était quoi ce que j'ai vécu? Et c'est pour ça que je ne mets jamais en avant cette hypersensibilité ou cette connexion que j'ai avec l'autre. Parce que l'autre n'a pas besoin de savoir comment je me décortique à l'intérieur de moi. L'autre a besoin de savoir comment il peut se décortiquer à l'intérieur de lui. Ça, c'est mon positionnement en tant que formatrice, parce que j'ai vraiment une éthique profonde par rapport à par rapport aux personnes qui vont venir vers moi pour que je leur apprenne des choses. Je ne vais pas leur apprendre à être moi. Je vais leur apprendre à être elles. Après, je t'avoue, Laurent, que c'est de plus en plus dur dans mon domaine, vu que tout le monde se forme actuellement au transgénérationnel et qu'il y a toujours une surenchère du mieux, du best, de ceci ou de cela.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas justement un juste milieu entre pas en parler du tout et puis je sais pas, ouais, tu vois, j'essaie de je réfléchir à l'autre, mais c'est ouais, je sais pas, c'est mon côté coach mentor qui prend dessus, pardon, mais
Oh.
c'est plus
Comment être to be or not to be? Je crois que
ouais,
c'est
parce que
un mélange, un mélange.
je pense que c'est aussi quelque chose qui peut attirer, mais j'entends le. Moi, je fais toujours très attention dès qu'on parle spiritualité parce que les gens, la tienne, j'ai la mienne. Les gens, après, dès que tu touches la spiritualité, ça a un impact sur tout le reste, sur l'identité, les croyances, la vision du monde, enfin plein, plein, plein de choses. Et donc, c'est un sujet qui est très touchy, à mon
Tout à
avis.
fait.
Comme toi, je pense que chacun devrait l'explorer. En fait, moi, je dis souvent, c'est si on prend le raccourci vers la spiritualité, qu'on n'a pas les questions à les poser, les hauts, les bas, qu'on n'est pas parti en néo-spirit, qu'on n'est pas revenu complètement dans l'humain, qu'on n'a pas eu ces espèces de
Oui.
sinusoïdales entre j'y suis à fond, j'y suis pas du tout, la souffrance, les
Oui.
différentes expériences. Je pense qu'on n'est pas spirituel du tout, on est dans un espèce de fuite de l'humain, etc. Et donc, le chemin que chacun fait est une démarche spirituelle, dont j'entends l'éthique qui est derrière. Mais en même temps, c'est aussi intéressant de le partager, ça, ce chemin, ce parcours. Tout ce que tu viens de partager là, quelque part, dans le podcast, hein, je pense que c'est important de le dire et qu'on ne le dit pas assez. Parce que sur le transgénérationnel, sur comment ça s'appelle, constellation familiale, il y a plein
En
de gens qui
fait,
font des trucs qui ne sont jamais formés, en fait. Mais
j'ai
ils n'ont
pris le
pas vraiment l'expérience
transgénérationnel
non plus.
parce que le spirituel était trop sacré pour moi, alors que c'était mon premier domaine, le spirituel. Mais comme je n'avais pas le mode d'emploi de comment on forme dans le spirituel, je n'avais pas le mode d'emploi parce que on touche à mes valeurs dans le spirituel. On ne peut pas se faire de l'argent sur quelque chose qui est aussi beau que ça. On devrait, mais dans un monde parfait, Laurent, j'irais au supermarché, ce serait gratuit. Je passerais à la caisse en faisant un bisou à la caissière et je lui dirais merci pour.
On serait tous gentils, beaux, il n'y aurait pas de guerre, pas de
Ça,
violence.
merci, camarade.
C'est un peu ce que je reproche à certains mouvements, c'est que la démarche est un souhait irréaliste. Et bon, pourquoi pas, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc
Non.
oui, dans un monde idéal, tous les hommes, personne tripoterait les femmes, et tout le monde serait gentil avec ses enfants, et il n'y aurait pas de chômage, et pas de famine. Bon, C'est pas comme ça que ça fonctionne.
C'est très amusant parce que, oui, effectivement, j'ai l'impression que tu viens de me faire un coaching d'enfer ou de paradis, je ne sais pas. Parce que quand tu as posé cette question, je réalise en fait que je ne voulais pas qu'on touche à mon spirituel, à moi. Parce que mon spirituel, c'est ce qui m'a permis de survivre depuis que je suis née.
Oui.
Et je ne peux pas le vendre, ce truc-là, parce que c'est une partie de moi.
Bon, tu parles de vendre, moi je parle juste d'en parler. Comme tu, là, tu, là tu,
Oui,
tu vends
non,
rien.
mais mille excuses, Laurent. Tout ce que je dis, c'est en fait, quand on discute, toi et moi, moi, ça me permet de voir le positionnement que j'ai aujourd'hui par rapport à mes formations et de comprendre pourquoi je n'ai pas voulu intégrer le spirituel dans mes formations, bien que dans le transgénérationnel, quand on va monter plus haut, on va partir sur du spirituel parce que c'est impossible de ne pas parler de spirituel en transgénérationnel quand tu as des malédictions qui touchent des personnes qui décèdent. Toujours premier de la génération, premier homme, ou il n'y a pas de fille, ou il y a des trucs. On est obligé de partir dans du spirituel, mais je ne dis pas son nom.
Ouais, j'entends bien. Je reviens sur ça parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi pas mal. Bon, je suis plutôt dans l'humain, c'est plus ce que je fais moi, travailler sur l'humain. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui défendent une spiritualité saine, justement, comme tu la défends, comme quelque chose de beau, etc. Tu parles de sacré. Moi, j'avais écrit un article, mais c'était sur l'écriture. J'écris pas de livres parce que moi, l'écriture, les livres, c'est sacré. Tu vois, c'est des trucs qui traversent le temps et l'espace. C'est un niveau spirituel, l'écriture. Et donc, qui je suis pour venir toucher ça, tu vois? Et donc, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis ça. Mais en même temps, je pense que c'est important. Si je prends l'analogie sur l'écriture, c'est plus simple, parce que c'est plus un truc qui m'intéresse, oui. Moi, je lis des bouquins, c'est de la daube, ça se lit c'est fait pour faire du marketing, il n'y a pas de... C'était les gens qui disent comment écrire son livre en 30 jours, j'ai envie de les taper, tout, parce que c'est des trucs, bon, ils vendent sur Amazon, c'est du marketing, voilà, j'ai écrit un livre, c'est une autorité, super. Mais il n'y a pas
y a
ce
pas
sacré
d'âme.
Dedans, c'est pas, il n'y a pas d'âme, c'est pas un truc qui est fait pour traverser le temps et l'espace. Et j'entends, hein, j'ai conscience du paradoxe des enjeux que je mets, moi, sur l'écriture, tu vois, et donc sur le spirituel, mais je pense que c'est important qu'il y ait des gens qui défendent le sacré pour pas laisser la place à ceux qui en font un business, qui en font du marketing. Il s'agit pas de l'enseigner, parce que je pense pas que la connexion aux âmes, aux entités spirituelles, parce que c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui vient
Mais
ou qui vient
inné,
pas,
c'est sur
qu'on
ton
a ou qu'on
chemin.
n'a pas, que le chemin fait ou pas, mais ce qu'on peut apprendre du spirituel, de la spiritualité, et ça peut se retranscrire dans l'humain pour aider chacun justement à trouver son propre chemin, etc. Donc, je cherche pas à faire un coaching, mais comme c'est un sujet que, en général, la défense d'idées, c'est plutôt que de se cacher dans un coin, de se dire, OK, moi je défends ces valeurs-là, le sacré de quelque chose, et je veux que ce soit respecté. Ça, parce que je pense qu'on est dans... Je dérive un peu, mais c'est aussi l'intérêt du truc. On est dans une société aujourd'hui où on laisse un peu trop la place à l'immédiateté, au consommable, au surconsommable. Et en fait, ce que moi j'appelle l'anti-stupidité, on laisse le monde devenir un peu de plus en plus consommable, consommation, aller vite, tout chercher vite, etc. Et ceux qui ne sont pas comme ça, que moi j'appelle plutôt les profils atypiques, qui veulent rester dans leur coin, plutôt discrets, etc., qui font des trucs en petit comité, etc. On les entend pas assez, tu vois. Et donc, qu'on croit ou pas à ce que tu dis, c'est pas le sujet de ce podcast. Non. Chacun a son identité, sa marque, son truc.
Bien sûr.
Si t'es là, si je t'ai invité, c'est aussi parce que je te connais, et donc je connais ton énergie, je sais que t'es pas à exploiter la souffrance des gens, et que tu cherches justement à apporter quelque chose avec ton énergie, ton regard, etc. Tu fais encore, je crois, des dessins d'âme qui sont juste... splendide. Moi, je trouve qu'on l'avait fait un, ça m'avait retourné le cerveau. Tu vois, et donc, c'est pas, il y a pas, tu imposes pas quelque chose, tu imposes pas tes croyances, tu imposes pas ta vision du monde, tu la partages comme là, ça vient du cœur, etc., ton histoire de vie. Et je pense que il y a pas assez de gens qui le font, ça. Et je trouve que c'est dommage.
Après, je crois que je rencontre de plus en plus de personnes qui sont atypiques. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus envie d'être dans la phase, on consomme, on avance, c'est une évidence. Pas cette descente. Pardon.
Les envies, on ne les entend pas. C'est le paradoxe de l'atypique. J'en parlais dans le podcast que j'ai fait précédemment avec Anna Gallet, où aussi avec nous, on serait dans une grotte, dans un coin, tranquille, loin du bruit, loin du machin.
Tu sais que, Laurent, c'est ce que je dis, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un. Moi, mon monde idéal, ce serait une cabane dans les bois. On me foutrait la paix. Par contre, ce que je voudrais vraiment, c'est que la méthode que je transmets ou que j'enseigne, elle soit connue. C'est pas moi, mais la méthode ou la technique. C'est pas du tout moi que je veux mettre en avant. C'est l'outil que j'ai créé, que j'ai synthétisé. C'est un outil de schéma de vie. Enfin, un outil de schéma de vie. C'est comme si, au travers de cet outil, les personnes allaient intégrer leur monde intérieur et être connectées au monde extérieur, mais sans les apparences.
Mmh. J'ai du mal à ne pas prendre ma casquette de coach.
Parce que c'est vrai. Sérieusement, qu'on me foute la paix.
Les gens n'achètent pas l'outil, ils achètent la personne. Et si je parle à ceux qui nous écoutent, peut-être thérapeutes, des hypnos, peu importe, trop souvent ceux qui débutent, je trouve qu'ils mettent en avant l'outil, ce qui est normal au début, parce qu'on n'a pas forcément de matière. Alors que tu ne choisis pas un thérapeute pour son outil. Bon, les clients qui le font, en général, ce n'est pas des bons clients. Ils le choisissent pour la personne qui le fait. Ça, c'est, je viens voir Myriam qui fait du transgénérationnel, je ne viens pas voir le transgénérationnel. Et donc, oui, l'outil est important. Mais c'est la personne qui le transmet. Et en plus, ça évite tous les trucs, on m'a piqué mes idées, mes machins, mes trucs. C'est
oui.
Parce que moi, il y a des trucs, j'ai rien à manger, il y a des trucs que j'enseigne, c'est ma philosophie, mais c'est souvent les gens, quand ils viennent en stage, ils viennent voir l'énergie, tu vois, qui transmet le... Il y a même des gens, ils ont déménagement terre, je l'ai refait il n'y a pas longtemps, et c'est la troisième fois qu'ils venaient. Parce qu'ils...
Peut-être qu'à chaque fois, il y a une nouvelle approche.
Ouais, mais
une nouvelle facette, un angle.
J'entends juste quand tu dis ça, c'est...
Mais
c'est
le paradoxe des atypiques. Tu as raison de me bousculer.
De vivre
dans...
au fond de sa forêt. Moi, c'est pareil. Si avec moi, je serais au milieu d'une forêt avec mes chiens, je ne verrais personne. Moi, j'ai besoin d'une télé, Internet. Voilà. Et il y a un monde où tout le monde est beau, il est gentil, je ne regarde jamais les infos et tout va bien. Mais il y a la réalité de l'humain aussi. Et puis... Mais c'est que, comment on contribue, comment on arrive à faire quelque chose de ce paradoxe de vouloir, j'allais dire, disparaître, un indice de ce qu'il peut y avoir en moi, et
se
de
mettre
vouloir
en,
être,
en arrière-plan.
Et de se vouloir aussi se faire connaître dans la réalité de ce que c'est que le métier d'indépendant, de formateur.
Alors, merci, parce que là, je ne m'étais jamais posé la question sur mais quand les gens viennent. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ben, ils viennent chercher un savoir-faire, une technique spécifique ou un outil. Je ne m'étais jamais posé la question sur est-ce qu'ils ne viennent pas chercher au travers de la personne que je suis ou au travers de ce que je dégage. C'est vrai que je voudrais vivre dans une petite cabane, qu'on me foute la paix la grotte, ça me plairait bien. En plus, il y a un philosophe dans cette grotte, non?
Oui.
Ouais, je crois que c'est Platon, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est Platon.
Je ne sais plus qui c'est, mais cette idée de... cette volonté de vouloir se détacher de son outil et de ce qu'on transmet, je pense que c'est difficile parce qu'il y a cette envie de tranquillité, d'être dans sa grotte, mais en même temps, je pense à un pote que j'aime bien... Il y a un Jordan Véro, par exemple, il fait l'hypnose rapide. Bon, il a sa méthode, ses outils qui sont super. Mais les gens vont le voir parce que c'est Jordan. Toi.
Parce qu'il communique un truc.
Parce
ouais,
qu'il a, on achète avant tout l'énergie de la personne qui transmet. Et moi, je dis aux gens, regardez comment vous avez choisi un thérapeute ou un accompagnant la dernière fois. Très souvent, le choix ne se fait pas sur ce qui est écrit, sur ce qui est dit. Il se fait sur la photo, l'énergie, la sensibilité, plus que l'outil. Même des fois, c'est inconscient, ce choix, mais...
Effectivement, je n'avais pas cette vision-là. Pour moi, c'était je crée quelque chose, je le donne au monde. Et quand je ne serai plus là, ça continuera d'exister. C'est ça, l'outil.
Mais non, ça n'empêche pas l'autre. On est d'accord, c'est ce truc sacré. Et c'est ce paradoxe. Hein, pour ça que c'est ça qui m'attire, parce que je retrouve ça beaucoup chez ce que j'appelle les profils atypiques. Hein, cette double contrainte de je veux transmettre des choses et envie de changer le monde, le système, le machin, on appelle ça comme on veut. Et en même temps, ne pas me mettre en avant, rester discret dans mon monde, dans ma grotte. Et on a toujours cette espèce de conflit qui fait qu'il y a des gens qu'on n'arrive pas à communiquer, se lancer, etc. Mais c'est ce truc de sacré, tu vois. C'est plus grand que toi, c'est plus grand que moi. Donc c'est vachement important. Et donc je me mets à l'écart parce que c'est trop important. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'écriture, c'est qui suis-je pour toucher à ça, et donc j'y touche pas, et donc je me mets en retrait.
Et pourtant, c'est magnifique quand tu écris.
Et pourtant, merci.
Je m'envole quand tu écris. Tes écrits m'envolent, me font voler.
Donc, je n'aime pas trop les compliments, je ne suis pas très à l'aise, mais merci, ça me touche.
C'est celui
mais
qui c'est dit le... qui y est.
Tu vois, c'est ce... C'est... Là, on parle un peu. Je suis content parce que c'est un peu le but du podcast. C'est comme si on était que tous les deux et que c'était pas. C'est comment on arrive à trouver cette place entre ce sacré et quand même cet humain qui a envie de se reconnaître, de gagner des sous, de transmettre,
Laurent,
une étonne, des outils, tu vois.
Alors, je dirais mon Lolo, si tu me permets de dire ça. C'est un travail de tous les jours sur soi. De tous les jours sur soi, de vivre avec une double contrainte et d'intégrer les parties de soi qui ne sont pas OK avec ça et d'intégrer les parties de soi qui voudraient qu'on lui foute la paix et les parties de soi qui disent « Hey, regardez, je brille aujourd'hui, j'ai un nouveau truc, c'est super sympa, venez, on va jouer !» Et j'amène le jeu, beaucoup de jeux, je suis très très ludique quand j'enseigne, j'aime rire. Et ça me fait vibrer, ça aussi.
Peut-être ça. Je vais couper là, parce que moi, je parle beaucoup d'intégration plutôt que d'acceptation ou de changement. Pour moi, le chemin, c'est d'intégrer. Donc, ça me parle. Qu'est-ce que toi, t'entends par intégrer ?
Alors, je pars toujours du principe de la systémie. Je suis un individu dans un système, dans un environnement. Si cet environnement est toxique, est-ce que je peux changer cet environnement ? Peut-être que oui, peut-être que non, suivant certaines informations que j'ai. Si je ne peux pas changer cet environnement et que je suis quelque part obligée de vivre avec ça, qu'est-ce que ça va faire résonner en moi ? Qu'est-ce que je veux travailler sur moi pour m'en servir, pour devenir meilleure et ne plus me retrouver dans des environnements pareils ? Et je vais, par exemple, regarder en moi qu'est-ce qui résonne et je vais aller chercher la blessure initiale qui m'a touchée à tel point que ça bug à l'intérieur de moi.
C'est forcément une blessure ?
Oh, ma vie, ma pauvre vie. Laurent, ma première pauvre vie.
Oui, toi oui, mais en général.
Ça, c'est un truc que j'ai appris. Alors là, c'est la coach qui te parle, Laurent. Ici, la coach. Ce que j'ai appris un jour, c'est quand une personne est blessée, de lui demander la première fois que ça s'est passé. OK, non, là, maintenant. Mais la première fois que ça s'est passé, c'était quand ? Et la personne, elle repart à l'intérieur d'elle. Et souvent, non,
ma question, c'est est-ce que c'est forcément une blessure, toi, de... Juste tout à l'heure, de pas forcément les gens qui ont du mal avec les réseaux, qui n'ont pas envie de se montrer. Est-ce que c'est forcément lié à une blessure ou est-ce que c'est lié à une vision de la vie, une philosophie,
merci. Oui. Tu vois, c'est... Effectivement, il y a une histoire d'identité. Une identité, ce que l'on est soi. Mais il y a, tu sais, il y a le soi et il y a le faux self, ce que on montre à l'extérieur. Il y a notre identité et il y a l'identité de parade, de façade. Que moi, j'essaye d'avoir le plus intègre pour pas fausser les biais des gens. Mais c'est cet extérieur, c'est la part de moi qui est reliée à l'autre, qui résonne dans les choses que je fais. Je sais pas si je t'ai perdu ou pas.
Un peu.
À un moment, je me dis, ouais, non, mais attends, là, non, tu vas trop loin, Mimi, tu vas trop loin. Là, en fait, toi et moi, aujourd'hui, on est en train de faire un pot commun, on est en train de partager une chose qui est 1 plus 1 fait 2. Tu vois, le 2. Donc, on est en train de créer quelque chose. C'est parce que toi et moi, on va émulsionner des idées ensemble qu'il va ressortir pour chacun de soi quelque chose de bon ou quelque chose de négatif. Je pense, je privilégie. Je privilégie. Et
On a compris.
merde. Merci. Et le suspense, mets le mot qui te plaît dans le silence. OK. Donc. C'est ce choix que je fais, le positif, parce que tu es quelqu'un qui tend les gens vers le haut et que j'espère aussi le faire. Donc, de notre conversation, je vais pouvoir retirer des bonnes choses, des bonnes idées. Et soit je les intègre et elles me permettent d'évoluer moi dans mon identité, d'avoir une mise à jour d'informations que je n'avais pas. Soit elle me conforte dans je suis vraiment ça.
Oui.
Et c'est là où, par exemple, tout à l'heure, tu m'as posé des questions et je me suis dit, waouh, mais il y a de la blessure dans un truc qu'il me dit parce que je n'avais jamais vu sous cet angle. Je me protégeais de ça.
Quoi, je me suis retenu. Mais bon, on
Merci,
pourrait
chef.
parler pendant des heures de tous ces sujets-là, mais le temps passe. Puis là, j'ai les chiens, j'ai les chats, j'ai ma fille, tout ça qui s'excite un peu. Donc, peut-être on en reparlera. Mais j'aimerais bien terminer par une ou deux questions, parce que c'est un peu la signature que je voudrais laisser sur le podcast. Et une question que j'ai récupérée dans un podcast de Tim Ferriss, c'est si tu peux avoir un gigantesque panneau d'affichage, tu sais, qui pouvait parler à tous les gens qui passent, au monde, etc. N'importe où, avec n'importe quoi écrit dessus. Qu'est-ce qu'il dirait ce panneau et pourquoi?
Sois toi-même.
Ok. Et pourquoi?
Parce que les gens sont faux en apparence. Parce qu'ils veulent faire plaisir. Parce que on vit dans un monde qui est tellement faussé qu'on ne connaît plus les valeurs de l'autre.
Merci Internet, merci les réseaux. Ouais, ça a toujours été un peu comme ça, mais après,
Ouais,
sois
sois
toi-même, c'est
toi-même. Mais je crois qu'il y a, il y
vaste
a, il y
sujet.
a un truc, nous y saurons, un truc. Connais-toi toi-même. Je m'appelle pas Gnotti Sauron, mais je pourrais dire sois toi-même. Ça me
Connais-toi
plairait.
toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers.
Ah ben. Eh mais eh oh, bravo Laurent.
Bah, c'est pas de moi, hein, c'est je vais écrire un truc, c'est Socrate ou je sais pas quoi, ça a été repris par un gars
Ah
qui est
donc
un
c'est
peu
pas
vénère.
Gnotti Sauron.
Non, non.
Ouais. Je dirais sois toi-même parce qu'on est tellement en peur d'être blessé, on est tellement en besoin de reconnaissance, on est tellement avec des choses fortes qu'on ne peut pas être soi-même et je voudrais juste que les gens soient eux-mêmes. Vos émotions ne sont pas vos ennemis. Je répète, vos émotions ne sont pas vos ennemis.
Ah non, ça c'est sûr. Parce qu'en plus, un truc qu'on communique beaucoup hein, sur la colère, moi je pense que c'est un putain de levier de force. J'appelle ça le guerrier, de réveiller le
C'est
guerrier qui est
ça.
en soi, contre quoi on lutte, contre quoi. C'est un peu ce qu'on a évoqué dans ce podcast, c'est plutôt que de se cacher quelque part, c'est de lutter contre ce qui fait du mal à ce qu'on considère comme sacré. Et je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un
Ouais.
chemin
Ben moi,
d'évolution.
c'est ma colère qui m'a permis de survivre au décès de mon fils. J'ai décidé d'honorer la vie et de changer encore mieux les choses.
Ok, bah écoute Myriam, on va arrêter là. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci d'avoir été là, et puis je te laisse dire un petit au revoir à tous ceux qui nous écoutent.
Merci infiniment, Laurent, pour ton invitation. T'es une belle personne et le livre qui naîtra de toi sera un livre magnifique
Non mais ça
si
c'est
un
un sujet
jour.
interdit. Et donc pour ceux qui s'intéressent à ce que fait Myriam et qui veulent en savoir plus, je mettrai un peu ses liens à réseaux sociaux, puis ce qu'elle
Ah
fait
ouais.
en description du podcast. Sur ce, des bisous à tous, bisous Myriam, et merci.
Bisous, bisous.